à voix nue. Ce soir encore, Martin Kenéan rencontre Bartabas. Tout de suite, le dernier galop.
Bartabas, cette année, le théâtre que vous avez fondé, Zingaro, a 33 ans. Et 33 ans, c'est l'âge de la mort du Christ, mais aussi l'âge de la mort de Jéricho, dont on parlait ensemble il y a peu. Et vous donnez en ce moment, dites-vous, ici même, au Fort d'Aubervilliers, dans le cadre du théâtre Zingaro, le dernier spectacle de cette compagnie, Ex Anima. Alors, si la mort va nous occuper pour ce dernier entretien, c'est qu'elle a, me semble-t-il, pour vous, partie liée avec le cheval. Et on parlait de Jéricho, vous nous diriez un mot de cette tête de cheval blanc ?
Ouais, c'est le symbole de la mort, évidemment. Mais de toute façon, je pense que toute œuvre d'art est liée à la mort, évidemment. Quoi. Si on s'exprime sur l'art, c'est pour parler de la mort, c'est-à-dire du problème qui obsède les humains, comme je l'ai déjà dit, et qui n'obsède pas les animaux. Voilà, donc évidemment, toute forme d'art a un rapport plus ou moins avec la vie et donc avec la mort.
Quoi. Il y a ce discours de Malraux qui dit que face à la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort, face aux puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Et pour lui, l'immortalité, on l'atteint avec les œuvres d'art, que ce soit par la douleur ou par le rire.
Bien sûr, c'est une évidence. Ça, c'est formulé à la Malraux avec toute sa verve, mais c'est une évidence.
Avant Ex Anima, il y a un spectacle, vous avez eu le sentiment de vous affronter de façon dénudée, plus crue que les autres.
Non, disons que le fait de travailler avec des chevaux fait qu'on est en général plus souvent confronté à disparition que... Parce qu'en principe, un cheval vit moins longtemps qu'un humain. Quoi. Donc perdre un de ses chevaux, je me suis déjà exprimé là-dessus, c'est au-delà même de la tristesse ou du chagrin, c'est plus qu'on perd une partie de soi-même, quoi. Et enfin, moi, j'analyse ça comme ça. Quand j'ai perdu mon frison, par exemple, Zingaro, je vais pas faire d'anthropomorphisme. Tu peux perdre des êtres humains chers, des proches, voilà. Donc, un animal reste un animal, mais c'est plus que tu as l'impression de perdre une partie de toi-même. Je compare ça, c'est comme si tu perdais une main. Alors, tu peux continuer à vivre, tu as une main en moins, mais tu sais qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Et pour moi, perdre un cheval, enfin un de mes chevaux, quand je dis un cheval, c'est vraiment un compagnon de travail, d'expression artistique, pendant des années et des années, tu perds une partie de ce que tu es capable de donner, puisque ensemble, on a construit quelque chose, et tu sais que tu ne la retrouveras jamais. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'essayer de la retrouver dans un autre cheval, non, tu peux créer une autre histoire, recommencer une autre aventure, et voilà, pour dire autre chose, mais... Donc c'est plutôt de cet ordre-là, c'est proche de l'amputation, quoi, presque, donc pour moi, la mort d'un cheval, quoi.
Mais j'avais lu cette idée-là dans une de vos interviews, et j'avais pensé au film Sacré Graal des Monty Python, où il y a le gardien de la forêt, vous savez, qui s'est fait couper un bras, l'autre bras...
Plus de jambes, et continue
à sautiller, mais je me disais, au fil des années... Si à chaque fois que vous perdez un cheval, vous êtes amputé de quelque chose, Bartabas, qu'est-ce qui reste de vous aujourd'hui ?
Plus grand-chose, comme vous pouvez le constater. Ou l'essentiel, on va dire, peut-être. Mais non, voilà, après, la vie continue, quoi. Enfin, ça, on va pas passer par tous les poncifs, quoi. Mais voilà, enfin, c'est quand même, ça te permet de te confronter à cette notion-là de la disparition assez tôt et de plein fouet, j'allais dire, puisque ça touche vraiment ton mode d'expression quotidienne, quoi. Donc c'est quelque chose de... Il faut faire avec, comme on dit, quoi. Il faut faire avec, c'est le terme de... Alors évidemment, si tu fais des spectacles, souvent, tu vas me dire, tu parles plus ou moins de ça, forcément, de manière sous-jacente, tout le temps, quoi. Alors souvent, on l'a rapproché dans les spectacles de Zingaro à la religion, pas vraiment la religion, parce que moi, je suis athée, enfin, pour autant que athée veut dire quelque chose, d'ailleurs, je suis pas sûr. Moi, je serais plutôt animiste dans ce cas où je considère que l'homme n'a pas le droit même de s'arroger le droit de se créer des dieux. Je vais assez loin, quoi. C'est-à-dire pour moi, l'homme n'a pas plus d'importance que le torrent, la forêt ou l'animal, quoi. Il n'y en a pas moins, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc, je vois pas de quel droit il s'arrogerait même le droit d'avoir des dieux, quoi. Je veux dire, mais bon, je pense que si l'homme a créé les dieux, c'est qu'il en a besoin. Voilà. Donc, c'est en cela que je les respecte et que je les trouve même assez intéressants. les rituels de la religion m'ont toujours beaucoup intéressé de manière même théâtrale, comme acte théâtral, parce que peut-être c'est le premier acte théâtral. D'ailleurs, je dis souvent que mon premier souvenir de théâtre est d'avoir pénétré dans une église. Très jeune enfant, je m'en souviens très bien, quoi, de cette impression très étrange de voir ces gens qui se lèvent, qui s'agenouillent, qui s'assoient, la musique, cette espèce de grande cathédrale ou église, je me souviens plus trop, qui me paraissait démesurément grand. C'était fait pour ça, d'ailleurs, pour qu'on se sente bien petit, quoi. Et puis, cette espèce de rituel que je ne comprenais pas, quoi, l'odeur de l'encens. Pour moi, c'était un acte théâtral très puissant, quoi. Et d'ailleurs, je cherche toujours ça dans par exemple, quand j'avais fait le spectacle Lungta, bon, qui est un peu une évidence, parce que là, c'était des moines tibétains, je m'étais dit, tiens, on va perdre une frange de spectateurs, tous les enfants vont s'emmerder, quoi, parce que c'est quand même des chantantriques comme ça pendant une heure et demie, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les enfants étaient fascinés aussi par ce spectacle. Même s'ils n'en comprenaient pas du tout les codes, ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose, une cérémonie, quelque chose d'important qui se jouait, même s'ils ne le comprenaient pas. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que dans l'enfance, tu perçois des choses que tu ne comprends pas, mais qui te marquent pour la vie, quoi. Par contre, j'ai dû assister certainement, mes parents ont dû m'emmener à voir des spectacles de clowns pour enfants. J'ai dû sortir hilare, très content, mais je ne m'en souviens absolument pas, quoi.
Mais le fait que vous ayez été marqué enfant par ce spectacle, ce théâtre de l'église, le fait que vous soyez revenu des années plus tard dans une église, dans l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, avec vos chevaux, c'était une façon d'entrer à votre tour et d'aller dans le cœur de l'église à cheval.
C'est-à-dire que moi j'aime bien quand je fais des créations, surtout avec l'académie, qui sont toujours des créations ponctuelles, j'aime bien...
L'académie équestre de Versailles, que vous avez fondée en 2003.
J'aime bien utiliser des lieux toujours... insolite, qu'on va dire. Et puis c'est vrai que j'aime bien placer le cheval dans l'endroit où on l'attend pas. C'est déjà mettre un cheval sur une scène de théâtre, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel en soi, parce que tout d'un coup une scène est faite pour voir les détails. Par principe, tu vois les détails d'un acteur, donc mettre un cheval sur une scène, c'est tout d'un coup le regarder autrement, voir un frémissement d'oreille, un regard que tu ne vois pas forcément dans une arène ou autour d'un lieu pour chevaux, etc. Donc l'église, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un lieu magique, quoi. Donc c'était un grand souvenir, oui, le spectacle de l'abbatiale Saint-Ouen.
On parlait de religion. Il y a dans certaines religions, je pense aux religions scandinaves, un rôle important pour le cheval qui est psychopompe, qui guide les âmes.
Dans toutes les religions, dans le chamanisme, partout évidemment. Oui. C'est même les plus anciens restent de ça. C'est même peut-être dans les symboles, on va dire, de le cheval a pris de nombreux symboles, évidemment. Que ce soit dans la mythologie, jusque dans toute l'histoire des hommes, quoi. Mais je pense que c'est le plus intéressant. C'est effectivement, c'est presque un trait continu dans pratiquement presque toutes les religions, et voire même toutes les conceptions de l'univers, j'allais dire, parce que le chamanisme, pour moi, n'est pas une religion. C'est-à-dire, le cheval a ce rôle de psychopompe. Alors ça s'explique parce que c'est aussi le moyen de transport qui était le plus évident, le plus aérien. Mais oui, nous, on fait bien voler un cheval avec Sanima, quoi.
Et en Chine, ce cheval qui a les pieds sur une rondelle.
Exactement. Ouais. Donc ça, c'est oui, parce que peut-être le cheval aussi emporte tes rêves, emporte tes passions, quoi. C'est clair. Hein. De toute façon, je ne sais pas répondre à cette question. Pourquoi le cheval est l'animal, par exemple, qui a été le plus décrit en poésie, le plus peint, le plus sculpté. Bien sûr, on pourrait dire parce que c'est le compagnon de l'homme pendant des siècles, il l'a aidé à grandir. Bien sûr. Mais enfin, c'est pas la seule explication possible, parce qu'on pourrait dire qu'un guépard est beaucoup plus beau, beaucoup plus souple qu'un cheval. Un oiseau est beaucoup plus aérien qu'un cheval. Un cheval est un animal assez qui n'a pas beaucoup de dons naturels, en fait. Hein. Et c'est ce qui le rapproche de l'être humain, d'ailleurs. Moi, je pense qu'une des raisons pourquoi l'humain est si sensible au cheval, c'est qu'ils sont assez proches, quelque part. C'est-à-dire que l'être humain est un sous-animal aussi. Il court pas vite. Il sait pas voler, bon, il a fait des avions, mais enfin, il peut pas voler tout seul, il peut pas nager sous l'eau longtemps, il n'est pas spécialement souple ni élégant, mais par un concours de circonstances, il peut atteindre la grâce, il peut être gracieux, exactement comme un cheval n'est pas un animal souple, n'est pas un animal rapide, il ne vole pas, il nage pas sous l'eau, il a assez peu de capacité physique par rapport à d'autres animaux, mais par contre, il allie un ensemble de choses qui fait qu'il peut être très gracieux. Et ça, je pense que ça le rapproche de l'homme, quelque part.
Vous voulez dire qu'on ne descend pas du singe, mais du cheval?
Ne me faites pas dire ce que je ne voulais pas dire.
Mais à propos, on était avec les chevaux psychopompes.
Bon, ça délirait, on dit n'importe quoi, en fait.
dans les croyances scandinaves, il y a le fameux cheval de la mort qui a trois pattes, et puis celui du dieu Odin.
Un cheval n'a pas de pattes, il a des jambes. ou des pieds.
Trois jambes. Et celui du duo Audin, qui en a huit. Quand vous avez, par exemple, tourné votre film Chaman en Sibérie, vous avez eu le sentiment, ou peut-être à une autre occasion, de croiser un cheval qui aurait été ce cheval guide des âmes, comme une apparition ?
Non, j'ai surtout, quand j'étais en Sibérie, je me suis surtout rendu compte de la réalité de ce que pouvait être la vie là-bas, quoi. Et j'ai pris vraiment toute la dimension de ce que pouvait être le chamanisme quand il est dans son contexte. C'est-à-dire que quand tu es en pleine Sibérie, tu t'aperçois qu'il n'y a pas la moindre plante, la moindre feuille même, la moindre tomate, la moindre légume, et que si tu veux bouffer, il faut aller essayer de choper un lièvre ou un animal, ou alors, et que tu vois le cheval qui lui gratte le sol, là, parfois 50 cm de neige, pour trouver un petit lichen et le manger en dessous et se nourrir avec ça, tu te dis que parfois l'animal est quand même supérieur à l'homme dans sa capacité à survivre, quoi. Et donc ça te fait beaucoup réfléchir, hein. C'est-à-dire sur la non-adaptation de l'être humain au monde dans lequel il est fait pour vivre.
Et vous dites survivre.
Au jour d'aujourd'hui, hein, j'entends. C'est-à-dire que si vous mettez un animal, même très jeune, au bout de quelques heures pour certaines races, quelques jours pour d'autres, il saura survivre. Il saura ce qu'il doit manger, pas manger, il saura de quoi il doit avoir peur ou pas. Alors que l'être humain, mettez un nourrisson dehors, il faudra de longues années avant qu'il commence à comprendre comment se nourrir, quoi. Il sera mort depuis longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Nous sommes déconnectés du monde dans lequel nous vivons et donc nous ne sommes plus capables, tout simplement, de vivre dans le monde pour lequel on est fait pour vivre, quoi, qui est quand même la Terre, quoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. On n'est pas fait pour vivre dans des appartements, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup.
Vous êtes si peu fait pour vivre en appartement que vous vivez en caravane ici à Aubervilliers, au fort d'Aubervilliers. On est juste à côté de votre caravane, Bartabas. Et vous parliez de survivre. Il se trouve que vous-même, si Zingaro, c'est pas une aventure de vie, mais c'est votre vie, vous avez commencé par survivre avec le théâtre emporté, avec le cirque à Ligre, au milieu des années 1980. Vous dites que vous avez survécu d'une façon parfois un peu sauvage. Qu'est-ce que vous avez fait de particulièrement dur, de particulièrement grave, de terrible pour survivre à cette époque-là ?
Ça, je vous le raconterai pas parce que ça serait... j'aurais de quoi faire un roman, hein, c'est à la Céline, quoi. Non, ça ne peut pas se résumer comme ça en quelques mots. Disons que voilà, ça a été des années difficiles de survie, mais les plus belles années. Hein. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout dans l'analyse de c'était la galère, et puis tout d'un coup, j'ai reçu un coup de téléphone et il y a eu le succès. Non, non. Je veux dire, on est dans un combat permanent. Et au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans le même combat, j'estime même. Même si Zingaro est évidemment plus reconnu. Comme je dis souvent, avant on galérait pour trouver 1000 balles, maintenant il faut galérer pour trouver 1 million d'euros. Mais la galère est toujours la même, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans une survie. Même l'économie même de Zingaro, son mode de fonctionnement, fait qu'on est dans une survie permanente. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, chaque spectacle est une partie de poker, hein, pour Zingaro. C'est-à-dire qu'on s'endette jusqu'à 1, parfois 2 millions d'euros pour une création, et il nous faut 2 ans pour la rembourser, quoi. En fait, et pour mettre un peu de côté, de quoi commencer, encore arrêter 6 mois pour faire la suivante, quoi. Et à chaque fois, on remet sur le tapis le truc. C'est-à-dire que si un spectacle devait ne pas rencontrer du tout son public, ce serait tout simplement la fin de la compagnie, quoi. Pour moi, il y a pas de différence entre les débuts et maintenant. Je suis toujours sur la même énergie. Le jour où j'en aurai marre, là, j'arrêterai tout de suite, quoi. C'est-à-dire que je ne continuerai pas à exploiter un savoir alors que j'ai plus rien à dire, alors que j'ai plus la véritable envie de le faire, quoi. Et ça, pour l'instant, ce qui me motive plus, j'allais dire au-delà, bien sûr, c'est les gens avec qui je travaille, c'est toute notre tribu, toute notre compagnie, parce que on arrive à un stade où, j'allais dire, ce qui est quand même assez nouveau, j'en prends conscience depuis quelques années seulement, que tout d'un coup, tu t'aperçois que, ça me paraît un peu prétentieux comme ça de dire ça, mais ton œuvre te dépasse. C'est-à-dire que maintenant, je veux dire, on continue parce qu'on sait qu'on a construit quelque chose qu'il est important de continuer à faire exister. C'est pas pour nous qu'on travaille, en fait. Alors, c'est pour nos chevaux, évidemment, mais comme je dis souvent, le jour où les chevaux ne m'inspireront plus ou ne me diront plus rien, j'aurai le courage de dire j'arrête, quoi. En tout cas, j'arrête de faire ça, en tout cas. Voilà, parce que j'ai pas de raison de tricher, quoi. C'est mon vrai moteur, il est là, quoi. Donc le jour où ça ne me passionnera plus, j'aurai le courage d'arrêter. Je continuerai pas pour faire du fric, pour dire...
Mais alors, à propos de fric et de paris, spectacle après spectacle, Bartabas, Il se trouve qu'on en a parlé, vous aimez aussi les courses hippiques, vous possédez une écurie de course. Les chevaux courent parfois dans les villes d'eau, les villes où il y a des casinos. On a parlé de Las Vegas aussi, qui avait essayé de vous acheter un Zingaro à l'américaine. Et vous êtes arrivé, comme certains cinéastes, pour boucler le budget d'un film, d'aller au casino pour tenter la chance et trouver un peu de fric.
Non, c'est... Pour aller au casino, il faut déjà en avoir. Mais non, moi, les chevaux de course, c'est autre chose. C'est une passion d'enfance. C'est un... Voilà, donc on a la chance d'avoir bricolé, de connaître un peu, d'avoir trouvé quelques chevaux. C'est une aventure, on va dire, quoi. Mais voilà, j'aime bien pouvoir avoir des chevaux, ne pas avoir de maison et pouvoir avoir des chevaux de course, quoi.
Mais pour Zingaro, vous avez jamais utilisé l'argent gagné aux courses?
Non, parce que d'abord, dans les courses, on ne gagne pas d'argent. Déjà, si on gagne le droit de pouvoir, déjà, que ça coûte pas trop cher, c'est déjà bien, quoi.
Il paraît qu'il y a un moment, je me souviens d'un article au début des années 2000, vous étiez le plus riche gagneur devant Daniel Wildenstein. C'est dans la presse.
J'aurais bien voulu, mais non.
Ça n'a pas duré.
Non, on a eu quelques chevaux qui ont été bons et qui ont permis d'entretenir l'écurie Zingaro, c'est vrai. Ça devient n'importe quoi, ces intérêts.
Non, on parlait de la mort, de la vie. Alors évidemment, il y a l'argent qui s'en mêle.
À l'argent, ce qui est intéressant dans le rapport à l'argent, pour parler sérieusement, c'est qu'en fait, la recherche de l'argent ne peut pas être un moteur, à mon avis, pour un artiste. Et voire même, je pousse le bouton plus loin, c'est en ne pensant pas à l'argent que tu en gagnes. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, pendant plusieurs années, on n'avait même pas de salaire. Voilà, effectivement, c'était une aventure qui était irraisonnable, quoi. Parce que on vivait presque comme des clodos, quoi. Mais c'est le fait d'avoir persisté dans cette passion, sans penser, si on avait dû penser tout de suite salaire, qu'est-ce qu'on va gagner, quel sera notre, comment ils appellent ça, notre plan de carrière, etc. Jamais on aurait tenté une aventure comme ça. Et souvent, quand je croise des jeunes maintenant qui veulent rentrer à Zingaro, à l'académie, souvent je les vois très préoccupés de qu'est-ce qu'ils vont gagner tout de suite et dans un an.
Peut-être parce qu'ils voient votre voiture à côté de votre caravane.
Non,
c'est quoi cette voiture, Martha Bass?
Une Chrysler Crossfire qu'on m'a filée. Comme dit mon fils, c'est ma Crossfire. On délire aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Ça va être le thème de la mort qui nous rend hilares, comme ça, je pense.
Mais ils viennent vous voir pourquoi? Pour échapper à la mort? Parce qu'il y a un truc de vie ou de mort pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui débarquent à Zingaro?
Je ne sais pas, comme je dis souvent, des 40 personnes qui sont ici, il y a peut-être 40 motivations différentes d'être à Zingaro. C'est pas ça qui importe. L'important, c'est que ce sont des gens qui sont prêts à mettre dans la balance, de s'investir totalement dans une aventure, quoi. C'est ça l'important.
C'est pour échapper à la police,
pas la motivation. Oui, je peux. Parfois, ça peut être ça. Oui, c'est
parce qu'il y a un côté fort thèmes. Apache, justement.
Oui, ouais. Puis ça peut. On sait très bien ici, par exemple, tout le monde vit en caravane autour du théâtre. Or, personne n'est de famille de voyageurs ni de cirque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne le fait pas par héritage culturel. On vit pas comme ça parce que nos parents vivaient comme ça, nos arrière-grands-parents vivaient comme ça, comme souvent c'est le cas dans les gens de cirque, et donc ils savent rien faire d'autre que cette vie-là. Non, on le fait par véritable choix. Donc, je suis pas naïf, sans faire de la psychanalyse à deux balles. C'est évident qu'il y a un rejet de la société pour chacun, alors qu'il peut être placé au niveau de la famille, de la vie, j'en sais rien. Il y a peut-être un malaise quelque part enfoui qui fait que c'est des gens, de toute façon, qui ont envie de vivre autrement. Et d'ailleurs, c'est ça qui me passionne fondamentalement dans l'histoire de Zingaro, au-delà le fait de travailler avec des chevaux, au-delà même de faire des spectacles. C'est de proposer une autre façon de vivre et de travailler. J'incorpore le travail dans la vie. C'est une autre façon de concevoir la vie au travail même. Après, il n'y a pas de jugement de valeur à porter. Certaines personnes peuvent dire, ah ben vous êtes, ils voient les caravanes, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous avez de la chance. Puis d'autres qui disent, bah, vous avez une vie difficile parce que vous n'arrêtez pas de travailler. Voilà, moi, mon analyse, elle est très simple. J'ai la chance de vivre de ma passion. Donc voilà, tous les jours, moi je suis, et je le dis sans flagornerie, tous les jours, je suis ému quand je vois 700 ou 1300 personnes qui viennent dans le chapiteau pour assister au spectacle. Je me dis comment je fais pour intéresser des gens comme ça par mon travail qui est ma passion, quoi. Donc pour moi, c'est une bénédiction. Ça s'arrête là. Donc donc forcément, j'y consacre ma vie entière, quoi.
Ça fait 33 ans que vous avez fondé Zingaro, que le public se déplace et revient pour découvrir... Environ tous les deux ans, les nouvelles créations, ces spectacles dont le titre a la plupart du temps 7 lettres.
Toujours, pas la plupart du temps, toujours.
Un triptyque, Chimère, Batuta,
Eclipse,
Calacas.
Même mes films, Chaman, Mazepa, oui.
Et Ex Anima pour le dernier. Vous avez réalisé, il y a quelques années, un film qui s'appelle Galop arrière. Alors à la fois, c'est le nom d'une allure, de ce que avez... Vous êtes l'un des seuls au monde et de toute l'humanité, de l'histoire de l'humanité, à savoir maîtriser, faire cavaler.
Non, pas que je sais maîtriser, c'est que j'ai eu la chance de croiser un cheval qui s'appelait Quichotte, qui avait des prédispositions pour ça, et que j'ai tenté ça, et qu'effectivement, j'avais un des, pratiquement le seul cheval qui galopait, en tout cas aussi bien et aussi longtemps, parce qu'il l'a fait pendant 12 ans, galopait en arrière. C'est pas, il y a eu d'autres dresseurs qui ont, comme Phyllis au début du siècle, qui ont présenté des chevaux galop en arrière. Mais voilà, ça veut pas dire que d'ailleurs je serais capable de le refaire avec un autre cheval, hein. Faut beaucoup d'humilité là-dedans. J'ai eu la chance de croiser un cheval où j'ai senti la prédisposition pour tenter cette expérience, quoi. Voilà, ça s'arrête là. J'ai pas plus de mérite que ça, hein, si ce n'est d'avoir croisé ce cheval, quoi. C'est ça la chance de ma vie. Et voilà, donc ce film, c'est d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que je suis en train d'en préparer un autre.
Galop arrière 2.
Il y a un peu le même principe, mais en plus complexe, qui est en fait un et puis en plus avec beaucoup plus de temps, puisque celui-là date d'il y a presque une dizaine d'années maintenant, qui est un espèce de voyage poétique à l'intérieur des spectacles de l'univers poétique de Zingaro, on va dire. C'est pas un documentaire historique qui se veut quoi que ce soit, c'est vraiment se balader à l'intérieur de l'univers de Zingaro en utilisant que des images de spectacle, justement.
Puisque vous captez, par moi. Vous filmez, voilà. Vos spectacles.
Donc c'est revenir aussi là-dessus, donc c'est un double miroir, et ça permet de dégager aussi une espèce de, comme j'allais dire, une balade à l'intérieur de l'univers de Zingaro, et de comprendre le cheminement. Comme c'est un cheminement qui se passe sur une vie entière, sur 35 ans déjà, là, c'est pas évident d'en voir le chemin sur 35 ans, d'avoir le recul pour comprendre ce qui s'est passé et comment ça a évolué, quoi. Et donc, cette aventure cinématographique, comme ça, permet ce voyage-là.
Et à propos du premier galop arrière, donc ce travelling arrière dans la mémoire de tous les spectacles de Zingaro que vous aviez créés jusque-là, est-ce qu'il y a, au terme de ces longs mois de montage, et quand vous avez vu projeter en public ce film, quelque chose qui vous est apparu que vous n'aviez pas vu de tous vos spectacles?
Évidemment, c'est-à-dire que d'un coup, tu prends conscience que ton rapport au cheval a complètement changé, quoi. Alors, comme tu le vis quotidiennement, tu t'en rends pas vraiment compte. C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Et le fait de prendre un peu de recul et de pouvoir voir ça, tu t'aperçois que ce qui est une évidence, ce que tu vas chercher dans le cheval à 20 ans n'est pas la même chose que ce que tu vas chercher à 60 ans. Mais là, tu le vois même dans la, j'allais dire, dans le physique, dans la manière d'aborder le cheval, dans la sensualité du travail avec le cheval. Tu vois même l'évolution. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vois ton rapport au cheval qui change dans ta manière de l'approcher même. Alors évidemment dans les exercices, dans ce qui est présenté, dans les tableaux, mais même de manière sensuelle, physique, quoi, je sais pas.
Et vous dites que le cheval est un miroir qui renvoie un reflet différent selon chaque moment, selon votre âge aussi. Aujourd'hui, vous avez 60 ans.
Non, je dis que le cheval le renvoie ce que vous êtes capable de construire avec lui. Il vous renvoie vous-même en fait. Hein, c'est un miroir.
Mais ce matin, là, juste avant de nous parler, vous étiez à cheval, ouais, dans les douves du fort d'Aubervilliers. Ouais. Qu'est-ce qui vous a renvoyé comme reflet? Ou qu'est-ce qu'ils vous ont renvoyé parce que vous avez monté 4 chevaux?
Non, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que voilà, c'est un échange, un entretien. Si tu as un rapport barbare et primitif avec un cheval, il va te renvoyer une image apeurée, voire révoltée. Là, je vais dans les extrêmes. Et si tu as un rapport qui est basé sur l'écoute, la finesse de la relation et l'amour avec ton cheval et la patience, il va te renvoyer quelque chose de fin et de sensible, quoi.
Mais alors cet entretien, cette conversation, on y a assisté en arrivant. Vous étiez donc dans le manège qui est au pied des douves du fort. Et ça consiste pour vous à des bruits comme ça de bouche. Mais alors, on a commencé cette série d'entretiens en parlant des sons, notamment, et des sons du sabot du pied, du cheval. Et vous êtes revenu...
Il y en a un qui est essentiel pour moi, qui est la parole en fait du cheval, quoi. Et la parole du cheval pour moi, en tout cas, c'est ces simples petits mouvements de mort qui sont le résultat en fait des cliquetis du mort, qui sont le résultat en fait de la décontraction de la mâchoire. C'est-à-dire que quand un cheval se décontracte à la mâchoire, ce qui est pour moi le premier élément de contrôle presque de décontraction, il se décontracte la nuque, les cervicales et puis toute la ligne du dos, quoi. voilà, qui fait que c'est pour moi comme l'élément contrôle. Ce sera un peu comme un ostéo, voilà, qui va contrôler, clac-clac, les cervicales ou des points. Donc pour moi, c'est un élément sonore qui est fondamental dans le travail. Quand j'entends le cheval mâcher son mort, comme ça veut dire qu'il est décontracté. Quand un cheval est tendu, il va, d'ailleurs on dit saisir le mort, il va se contracter dans la bouche, qui fait qu'il va le contracter, la nuque, les cervicales et le dos. Or, le principe du dressage et de la locomotion élégante, on va dire, d'un cheval, c'est un peu comme un danseur, c'est l'énergie dans la décontraction. C'est-à-dire comment le cheval peut fournir un maximum d'amplitude gestuelle et d'énergie dans une décontraction totale, quoi. C'est ça qui va faire que le mouvement va avoir de l'amplitude, de la souplesse, de l'élégance et de l'expression, quoi.
Mais puisqu'on parlait de la mort aujourd'hui, peut-être peut-on finir avec une autre image, une image qu'on trouve dans votre film Mazeppa, où il y a cette vie de Théodore Géricault qui peint un cheval dans un champ, et il se trouve que c'est une jument qui est sur le point de mettre bas. Et qu'est-ce qui arrive à Géricault? Est-ce que ça, surtout, ça nous dit quelque chose de l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Non, quand vous me parlez de ça, je pense surtout au tournage, parce que le tournage a été rocambolesque. Parce qu'il faut savoir que dans cette scène, Miguel Bosé, donc l'acteur qui joue Géricault, aide à mettre bas une jument en pleine nature, quoi. Or, il a fallu la tourner en vrai, quoi, en direct, hein. Donc déjà, c'était rocambolesque, qu'il a fallu attendre le bon jour, quoi. Donc c'était même 3 mois avant le tournage réel, quoi, parce qu'il fallait que ça se passe au printemps. Le film a été tourné en septembre, et donc c'était chez une femme qui avait des juments poulinières, qui sont des juments lourdes qui servent après à élever des purs sangs qui ont perdu leur poulain, etc. Donc il fallait tomber le bon jour. Donc déjà, elle m'avait appelé, donc on fait venir le comédien en avion, etc. Et puis on attend une journée, 2 jours, et puis ça venait pas, et il devait reprendre l'avion à midi, quoi. Et genre à 7h du matin, il dit c'est bon, hop, alors qu'on l'a mis dans le pré, il a fallu dégager toute l'équipe, parce que était impossible de faire un cadrage, un pré, parce qu'on sait pas de quelle manière tout ça allait tourner, quoi. Donc j'étais juste le caméraman, moi, à côté, et l'acteur, et au fur et à mesure, parce que j'ai tourné sans son, ce film, hein, tout le son a été reconstitué un peu à la Tarkovsky. Et donc je lui dis, en direct, je lui disais ce qu'il fallait faire, quoi. C'est-à-dire tirer le poulain par la tête, couper le placenta, enfin, etc., etc. Et l'émotion était incroyable, parce qu'il y avait le comédien ne jouait même plus, quoi. Il était complètement tétanisé par la présence, et on voit ce poulain qui naît en direct, en fait, quoi, en même temps que dans une fiction, quoi. Donc c'est une aventure assez incroyable, quoi.
Et l'aventure continue.
Ouais.
Merci, Bartabas.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bartabas. À voix nue. Coordination Claire Poinsignon. Prise de son Thomas Robine. Réalisation Véronique Lamandour. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.